Sylvie Gervietti, vous êtes directrice du musée départemental des Gorges du Verdon, le musée de préhistoire. Vous proposez une conférence particulière ce vendredi. De quoi s'agit-il ?
Effectivement, c'est dans le cycle des conférences. Ça ouvrira le cycle des conférences 2025. Mais plus qu'une conférence, c'est plutôt l'idée de présenter au public l'actualité du musée. Qu'est-ce qui a été fait comme gros projet déjà au musée ces dernières années ? Quels sont les gros projets dans lesquels on est engagé ? Et ces gros projets, en fait, ils ont été étudiés dans le cadre du projet scientifique et culturel, qui est un document obligatoire pour les musées avec l'appellation Musée de France, et c'est en fait la feuille de route pour les 5 ou 10 prochaines années du musée. Donc l'idée, c'est de présenter ce document, les axes de développement du musée et surtout du coup le travail en coulisses, ce qui se passe en coulisses pour qu'on travaille à ces projets et comment on y travaille.
Alors vous évoquez une mue.
Alors effectivement, parce que la feuille de route qui m'a été donnée par la collectivité à mon arrivée, c'est le renouvellement complet de l'exposition permanente du musée, et cette exposition permanente, elle va être renouvelée dans le fond, c'est-à-dire qu'il a été acté que le musée allait faire l'acquisition de collections de manière assez conséquente. On va sortir du Verdon pour élargir le champ géographique des collections, tout en restant toujours dans la même chronologie, la préhistoire jusqu'à la conquête romaine, mais sur un territoire plus large, plus représentatif de la Haute-Provence de manière générale. Et on va aussi proposer une muséographie qui va être complètement renouvelée et qui sera plus adaptée au public d'aujourd'hui, et notamment au public familial, qui est un public très important pour nous, puisqu'il constitue une part importante de notre fréquentation.
Ces nouvelles acquisitions, que seraient-elles ou quelles sont-elles ?
Alors, on est justement en train de travailler sur cette question, et c'est ce que je présenterai aussi dans la conférence, c'est comment on travaille à cette recherche des collections. On est en train, à partir de la littérature rédigée par les archéologues, de sélectionner les sites qui sont représentatifs de ces périodes au sein de la Haute-Provence, de ces sites qui nous livrent des informations sur la vie quotidienne, sur les différents thèmes de la vie quotidienne. Et on sélectionne ces sites, on voit avec nos collègues du service régional de l'archéologie si les collections sont disponibles. Pour beaucoup, elles sont actuellement sous la charge de l'État, mais non présentées au public. Donc l'idée, c'est que ces collections sortent des réserves, viennent s'installer dans nos réserves, et qu'on aille sélectionner des objets pour raconter une histoire beaucoup plus globale de la préhistoire dans la région en Haute-Provence.
Le musée est assez grand, mais est-ce que vous aurez la place de tout mettre ?
En tout cas, le musée est assez grand et de manière assez exceptionnelle, il y a encore de la place dans les réserves, donc on pourra mettre les collections sans problème, stocker de nouvelles collections. Là, on risque de doubler le fond du musée. Et puis pour ce qui est du parcours permanent, c'est pas parce qu'on accueillera plus de sites dans le parcours permanent qu'on accueillera forcément plus d'objets dans les vitrines. L'idée, c'est justement de ne pas écraser les visiteurs avec des amoncellements d'objets, mais plutôt de sélectionner et de remettre en contexte ces objets avec un dessin qui explique comment on utilisait ou avec une petite manip à faire, etc. Donc c'est pas forcément beaucoup plus d'objets en vitrine, peut-être même pas plus du tout, mais présenté très différemment.
Ce parcours représentera toujours la même fourchette de temps qui est assez vaste, hein, de plusieurs centaines de milliers d'années jusqu'à quelques dizaines avant notre ère.
Tout à fait, là, on a toujours vocation à présenter l'occupation de la Haute-Provence depuis l'origine, donc autour de 400 000 avant et jusqu'à la conquête romaine, donc effectivement, on va dire jusqu'à zéro. Mais on ne change pas le champ chronologique, hein, simplement dans ce nouveau parcours aussi, la dernière partie, ce qu'on appelle la proto-histoire, les âges des métaux, sera sans doute un peu plus développée qu'elle ne l'est actuellement.
Quels sont les scientifiques et collaborateurs du musée qui interviennent dans ce projet ?
Évidemment, on a un conseil scientifique avec des chercheurs qui travaillent sur les différentes périodes. On a enrichi aussi ce conseil scientifique avec des gens qui sont des spécialistes de l'archéologie en musée, donc de la mise en exposition de l'archéologie. Et puis, on travaille aussi avec des chercheurs qui ne sont pas dans le conseil scientifique, mais qui travaillent sur la région. Et donc, chacun pour leur spécialité, on les consulte en disant ben, voilà, on envisage de présenter tels éléments, est-ce que c'est pertinent, est-ce que l'extension géographique qu'on imagine est pertinente, sans doute qu'elle ne sera pas la même selon les périodes, parce qu'on souhaite être aussi homogène dans les cultures qu'on veut présenter.
On rappellera que la région du sud-est de la France est une région très riche pour l'occupation pendant des centaines de milliers, peut-être ne serait-ce qu'à cause du climat. La glace descendait assez bas, non ?
La glace descendait assez bas, après finalement, sur notre territoire, effectivement, elle ne descend pas pas si bas que ça. Et puis, surtout, l'archéologie, et c'est aussi pour ça qu'on a souhaité enrichir les collections, l'archéologie aujourd'hui s'intéresse aux territoires d'altitude, et c'est en train de montrer que les Alpes n'étaient pas du tout infranchissables, bien au contraire, il y avait beaucoup d'échanges, beaucoup de traversées de ces territoires d'altitude, et avec aussi une exploitation des ressources en altitude. Donc, c'est aussi l'intérêt de ce renouvellement que d'aller chercher ces informations et d'être vraiment actuel dans le discours scientifique qu'on va pouvoir tenir. C'est vrai que cette collaboration avec les chercheurs est essentielle pour aller actualiser complètement le discours qu'on va tenir dans le parcours.
Adossé physiquement au musée, il y a le Préhistocyte. Pour ceux qui ne sont jamais venus, c'est une double visite en fait. Il y a le musée de Quinçon et son Préhistocyte à côté, Casermar, qui a été installé il y a 3 ou 4 ans.
En 2022, il a été inauguré en 2022, donc il a fait suite à un premier village préhistorique. Mais c'est vrai que cet espace qui est à proximité immédiate du musée, avec des habitats reconstitués, avec un stand de tir, avec aussi
des plantations,
une fosse fouille, donc c'est un espace d'accueil à part entière pour le musée. Et on va dire qu'une bonne partie de la médiation se passe dans cet espace-là, donc tout ce qui est atelier, faire du feu, chasser comme à la préhistoire, etc., tout ça se passe dans cet espace de plein air, qui est évidemment très apprécié par le public, même si la médiation aussi, notamment depuis l'année dernière, a réinvesti l'intérieur du musée, c'est-à-dire qu'on propose maintenant des médiateurs qui sont en médiation flash ou en médiation ludique à l'intérieur du musée, donc le visiteur peut se laisser surprendre par la présence d'un de mes collègues qui va venir leur faire découvrir la préhistoire par l'intermédiaire de petits jeux.
On rappellera que le Préhistocyte est libre d'accès à tout moment.
Tout à fait, il est ouvert toute l'année et en accès complètement libre, donc on peut déambuler dans cet espace et découvrir au gré des panneaux les différents habitats avec les explications qui vont avec, ou alors effectivement le découvrir à l'occasion d'un atelier avec les médiateurs.
L'événement important aussi de l'année pour le musée, la journée de la préhistoire, elle aura toujours lieu de la même façon?
Alors, la journée de la préhistoire aura lieu donc le dimanche 20 juillet, toujours sur le même fonctionnement, donc en grande partie dans le Préhistocyte et également aussi dans le jardin public, avec des stands qui permettront de présenter certains savoir-faire de la préhistoire. Le temps fort cette année, c'est une association qui s'appelle le Calcofort qui va venir pour l'occasion. C'est une association qui est spécialisée notamment sur l'âge du bronze et qui proposera la fabrication d'objets en bronze, donc une coulée de bronze, et on va essayer de travailler sur un projet éventuellement d'épée, puisque on a une épée qui est en cours d'acquisition, un fragment d'épée qui vient de Digne, donc je suis en train de discuter avec eux pour voir si on peut faire une épée à cette occasion là
Cette journée préhistoire, c'est spectaculaire, hein, puisqu'il y a tous les arts et les méthodes de vie, le feu, la cuisine.
Oui, tout à fait. On essaye d'avoir un panel assez large des activités de la préhistoire, de démonstration, de participation aussi. Et puis, on accueille aussi des chercheurs qui viennent présenter leurs recherches. Et cette année, on a un autre temps fort qui ressemble un peu, mais qui aura lieu le dimanche 13 avril. On accueille les rencontres Paléobox. Paléobox, c'est une association qui rassemble des médiateurs en préhistoire au niveau national. Et donc, ces médiateurs viendront découvrir notre musée et les sites environnants. Et le dimanche 13 avril, en échange, ils viendront animer le Préhistocyte. Et donc, là aussi, ce sera l'occasion de découvrir des savoir-faire, y compris des savoir-faire que, pour l'instant, on ne présente pas au musée.
Revenons-en à votre présentation du musée, cette conférence. C'est à quelle heure et à quel endroit?
C'est au musée de préhistoire, dans l'auditorium Jean Gagnepain. Et le rendez-vous est à 18h.